Bienvenue au balado-diffusion de Église M. Votre opinion est importante pour nous, alors n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et suggestions à l'adresse suivante. info@commercialeglisem.com
Ce genre de message-là, peut-être vous l'avez déjà perçu dans le passé, comme si vous avez déjà entendu un message, peut-être dans le sens, des fois on a l'impression d'une culpabilité, de comme, ah, je suis pas assez bon, je donne pas assez, c'est pas assez généreux, je devrais faire plus. C'est pas dans ce sens-là, c'est pas un sens de condamnation, mais bien plus pour nous donner une liberté, une joie, une vie différente face au sujet que souvent on évite, c'est-à-dire les finances. Vous savez, c'est un défi de pouvoir vous garder éveillé. Je relèverai le défi, je prends le défi. En fait, dans cette série-là, comme je vous ai mentionné, on parle de générosité, on parle de liberté et d'espoir, parce que vous allez dire, c'est quoi le lien avec tout ça? À la fin de la série, vous me poserez la question. Je suis persuadé que vous allez avoir eu la réponse. Mais il faut vous écouter les messages. Il faut être là. Prenez les noms, s'il vous plaît, à tous ceux qui... Non, c'est des blagues. Il y a plein de moments dans notre vie où on a ces moments-là qui nous marquent, ces moments qui définissent des choses. Je suis sûr que vous pouvez regarder dans votre vie en arrière et ces moments-là n'étaient pas sur le coup des moments qui étaient comme définissants ou quelque chose qui était majeur. Mais après le recul, vous vous dites, hey, ce moment-là, il a été important dans ma vie. Ce moment-là, je m'en rendais pas compte, mais ça marquait quelque chose. Et il y a ces moments-là où c'est des fois ces personnes-là qui passent dans votre vie qui font cet effet-là. Que après que vous les ayez rencontrés, il y a quelque chose de différent qui s'est passé. Des fois, c'est pas sur le coup, c'est après. C'est drôle, j'ai une de mes filles qui, lorsqu'elle était au secondaire, dans une année quelconque, elle était pas capable d'endurer son prof de mathématiques. Et l'année suivante, elle était dans un autre, avec un autre professeur. Elle me dit, oh, je m'ennuie de ce prof-là, il me challengeait. En fait, sur le coup, des fois, on trouve les choses comme, oh, c'est pas mon goût. Non, mais les gens qui nous marquent nous bousculent. Ils nous bouleversent. Ils changent quelque chose dans notre façon de penser. Et sur le coup, tout le monde déteste. En fait, tout le monde dit, j'aime le changement. C'est faux. Tout le monde déteste le changement. On veut pas que ça change. On veut que ça change, mais on veut que tout reste pareil. Ça, c'est un peu ça. On veut que tout le reste change, mais on veut pas que... Dérange pas mes affaires. Fait qu'il y a cette notion-là que quand quelqu'un vient bouleverser notre environnement, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu me fais ça? Et souvent, on a cette perception-là, mais souvent, par la suite, plus tard, on fait comme, « Hey, ça, c'était une bonne chose que cette personne-là m'a fait ça, ou elle m'a poussé, ou elle m'a challengé, parce que ça m'a permis d'avancer. » Et il y avait ce prof d'université-là que j'ai trouvé, qui s'appelle le docteur Joe Grana. Et j'ai trouvé ça super intéressant, parce que quand tu rentrais dans sa classe, c'était habituellement très enjoué, tout le monde jasait, ah, c'est le fun, puis c'était très très camaraderie, tout le monde se saluait, tout ça, puis c'était beaucoup d'entrain. Mais un jour, alors qu'il donnait son cours, c'était le silence total. Et finalement, les élèves commencent à rentrer, et ils se demandent qu'est-ce qui se passe dans le cours. Et alors qu'ils rentrent dans la classe, le professeur Grana avait apporté en avant de la classe ceci. Peux-tu avoir l'image, s'il vous plaît? Il avait mis ça en avant de sa classe. Un cercueil. Il avait mis un cercueil en avant de la classe. Et il a demandé à tous de faire cet exercice-là. Super intéressant. Parce qu'il s'est dit, OK, je mets le cercueil ici, puis il a amené un exercice qu'il a utilisé. En fait, je l'ai retrouvé à cause d'un livre. Un livre qui existe en français, c'est « Seven Habits of Highly Effective People ». En français, c'est les 7 personnes qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, je pense, ou ils réussissent tout ce qu'ils font, quelque chose comme ça. Et dans ce livre-là, dans le chapitre 2, il y a quelque chose de super intéressant, puis le prof a utilisé ça. Il a utilisé cette image-là du cercueil. Et il a pris un exercice dans le livre que je vais vous lire. Je vais vous lire simplement ce qu'il a mentionné à ses élèves. Et je voudrais que vous fassiez la même réflexion. OK? Il a pris le titre s'appelle « Commencez par le début ». Commencez avec le début en tête. Et imaginez-vous pendant un instant que vous êtes à vos propres funérailles. OK? Vous assistez à vos propres funérailles. Et regardez bien ça ce qu'il dit. Il dit « Alors que vous vous dirigez vers le devant de la pièce et regardez à l'intérieur du cercueil, vous vous retrouvez soudain face à face avec vous-même. Ce sont vos funérailles dans 3 ans. Tous ces gens sont venus pour vous honorer, pour exprimer des sentiments d'amour et d'appréciation pour votre vie. Alors que vous vous asseyez et attendez que les services commencent, vous regardez le programme dans votre main que vous tenez, il doit y avoir 4 orateurs qui vont passer. Le premier est de votre famille immédiate ou étendue, c'est-à-dire enfants, frères, sœurs, neveux, nièces, tantes, oncles, cousins, grands-parents, qui sont venus de tout le pays pour y assister. Le deuxième interlocuteur est l'un de vos amis, quelqu'un qui peut donner une bonne idée de qui vous étiez en tant que personne. Le troisième intervenant vient de votre travail ou de votre profession. Et le quatrième vient de votre église ou d'un organisme communautaire où vous avez été impliqué dans le service. Et là, il dit, réfléchissez maintenant profondément. Je vous demande de faire la main. Réfléchissez maintenant profondément. Et voici ce qu'il pose la question. Il dit, qu'aimeriez-vous que chacun de ces orateurs dise de vous et de votre vie? Quel genre de mari, femme, père ou mère aimeriez-vous que leurs paroles reflètent? Quel genre de fils, fille ou de cousin? Quel genre d'amis? Quel type d'associé au travail? Quelle personne aimeriez-vous qu'ils voient en vous? Quelle contribution, quelle réalisation voudriez-vous qu'elles se souviennent? Regardez attentivement les gens autour de vous. Quelle différence aimeriez-vous faire dans leur vie? Avant de poursuivre notre lecture, prenez quelques minutes pour noter vos impressions. Il fait exactement cet exercice-là avec le cercueil en avant de la classe. Et le prof a demandé ensuite à ses étudiants de passer, de venir chacun leur tour en avant. Et c'est ce qu'il avait fait. C'est qu'il avait justement comme ça ouvert le cercueil et il avait mis un miroir dans le fond. Et il avait demandé à chaque élève de passer devant et de regarder, puis c'était en fait c'était sa face, il se voyait. Et de retourner à sa place et de réfléchir et de se poser la question. Et de penser en passant dans juste cet exercice-là a changé, pourrait bien changer votre vie à vous aussi, juste de réfléchir pendant un instant, puis vous dire qu'est-ce que j'aimerais que les gens, quand ils vont me regarder, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Quel sera j'aurais laissé pour eux autres. Et cet exercice-là, comme je vous disais, pourrait changer bien des décisions, bien des choses dans votre vie que, dans lesquelles vous allez prendre. Parce que si on disait, les gens qui passaient en avant disaient, il était cheap. Oh, qu'il était égoïste. Il voulait toujours gagner, peu importe l'impact que ça faisait sur les autres, peu importe ce que ça leur faisait aux autres. Il gardait tout pour lui ou pour elle. Quel genre de phrase? Pensez à des films qui ont marqué la générosité ou qui nous parlent de générosité. Je n'ai nommé 3, je n'ai juste mis 3. On peut-tu regarder bien ça? On va voir les prochaines diapos. La liste de Schindler. Le prochain. L'éveil d'un champion, de Blindside. Et finalement, Nacho Libre. Non, mais... Vous autres, vous pensez que c'est une joke? Pas vrai! En fait, Nacho Libre, c'est pas l'histoire d'un gars qui veut être lutteur puis qui veut se déguiser avec des collègues. C'est pas ça. Nacho Libre, c'est pas ça du tout. En fait, c'est l'histoire d'un quelqu'un qui est dans un monastère, c'est comme un moine, et qui décide de donner sa vie pour sauver l'orphelinat d'enfants qui vont, ils vont perdre leur orphelinat. Et il décide de gagner de l'argent pour sauver l'orphelinat en faisant de la lutte. En fait, vous irez voir le film en place. Mais c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire de Nacho Libre. Vous savez, il n'y a pas juste les films qui sont... Les médias sont comme ça. Combien d'histoires qu'on essaie de nous rapporter, partout, on saute sur ces histoires-là de générosité qu'on entend parler. À un moment donné, il y avait à télévision, je fais pas de pub pour personne, mais il y avait La Bonne Nouvelle TVA. C'est moi qui me souviens de ça. C'était toujours une histoire de générosité, quelque chose d'extraordinaire qui venait de se passer. En fait, les médias, puis si vous êtes aux États-Unis, c'est encore pire, là, ça saute là-dessus, comme c'est terrible. Des vrais vautours. Mais en réalité, ce qu'ils cherchent, en fait, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent à quel point ça nous interpelle de voir ces histoires-là. Ça vient nous chercher. Et pendant un instant, les choses qui vous ont le plus touché dans votre vie, pensez-y, là. Y a-t-il pas ces gestes de générosité ou ces impacts qui ont eu un impact sur vous, ces gestes-là qui ont un impact sur vous? C'est à nous de réfléchir sur comment on veut être décrit. Et c'est pour ça que mon titre aujourd'hui, le titre de mon message ce matin, c'est comment vous, pour quelle raison se souviendra-t-on de toi? Pour quelle raison se souviendra-t-on de toi? On veut qu'on se souvienne de nous pour notre générosité envers les gens. On aime ça. Il y a quelque chose. Oh oui, mais je veux pas que les gens pensent que je suis cheap. En fait, je veux que les gens pensent que j'étais une bonne personne, que j'étais généreux, que j'étais gentil. OK, mais tu fais quoi pour que ça s'en aille dans cette direction-là? Puis souvent, c'est pour ça que le titre du chapitre, c'est commencer avec la fin en tête. C'est comme, c'est quoi tu veux que ça arrive? Qu'est-ce que tu veux? Où tu veux aller? Et ça, c'est un principe de base en leadership. C'est la vision qui détermine la direction. Si tu veux aller où, juste? Où tu veux atterrir? C'est quoi ton objectif? Et un coup que tu as défini l'objectif, le chemin se trace. Et si tu dis, ben moi, je veux que les gens me reconnaissent comme généreux, ben maintenant, les décisions dans ta vie devront se prendre en fonction de ça. Et c'est comme ça, commencer avec la fin en tête. Et je vais regarder avec vous comment la Bible répond à trois questions essentielles de réfléchir par rapport à la générosité. Et le premier point que je vais apporter, ou première question que je veux répondre, c'est d'où nous vient notre envie d'être reconnu comme étant généreux? Ça nous vient de où, dans le fond de nous-mêmes, générosité, j'aimerais ça que les gens disent ça. Ça nous vient de où? C'est quoi la racine de ça? Savez-vous que la Bible est claire là-dessus? Elle donne la définition de ça. Ça vient de Dieu, bravo! Exactement. Généralement, quand Bible, ça marche ensemble. Genèse au premier chapitre, le verset 27, regardez bien. Ça dit ceci. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient à l'image de Dieu. Dieu a créé l'être humain pour qu'il soit comme lui. Et Dieu est rempli de générosité. Dieu est généreux comme... En fait, vous ne pourrez jamais dépasser sa générosité. C'est ça qui est génial. Je me souviens d'un prédicateur il y a plusieurs années qui s'appelle Tommy Barnett, qui a marqué une influence extraordinaire. À un moment donné, il disait à quel point il essayait de dépasser Dieu dans sa générosité. Il dit, plus Dieu me donne, plus je donne. Mais il dit, je réalise une chose, l'appel de Dieu est plus grosse que la mienne. Cette image-là, c'est quoi l'image? C'est ce reflet, le reflet de sa nature. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À cause du péché, tout a été détruit. Cette pensée-là, cette notion-là, il y a ces deux natures qui luttent en nous autres. Ces deux natures, le péché et la nature que Dieu nous a donnée, qui luttent toujours une contre l'autre. Je vous donne le cue, ça va aller jusqu'à la fin. OK? Vous allez vivre comme ça, toujours. Il va toujours y avoir cette lutte-là entre ce que Dieu veut vous faire dans votre vie et ce que le péché cherche à détruire dans votre vie. Tout le temps. Ça va toujours être là. Vous ne pourrez pas dire, oh, mais il n'y a pas un break. Il n'y en aura pas de break de ce bord ici. Il n'y a aucun break. Donc, il y a déjà peut-être quelqu'un qui t'a dit, peut-être que vous avez déjà entendu cette phrase-là. Ah, oh, t'es pareil comme ton père. T'es pareil comme ta mère. Des fois, ça peut être un compliment. Sauf si ça vient de votre conjoint ou conjointe. C'est ça. Mais en fait, c'est que Dieu nous a créés comme lui. Il nous a créés à son image. Et imaginons que nous devions prendre un seul mot dans tous les mots pour décrire Dieu. Juste un. Lequel vous vient en tête? Extraordinaire. Vous pensez à amour. Vous êtes tellement bon. Le plus commun, c'est que Dieu est amour. Dieu est amour. Et quel mot décrit le mieux? Parce que vous savez que l'amour, ça se démontre. Hein? Ça peut pas juste se dire. C'est quelque chose qui doit être... En fait, l'amour, faut que ça soit en action. Il doit un geste. Il doit un verbe. Il doit quelque chose qui doit prendre place. Qui démontre l'amour. Donc, Dieu est amour extraordinaire. Mais qu'est-ce qui caractérise l'amour de Dieu? Si on prend, quelle forme prend son amour? Et de tous les versets de la Bible, je vais vous prendre celui que vous n'avez même pas besoin de tourner nulle part. Le plus simple de tout, Jean 3, 16, qui dit ceci. Car Dieu a tellement, comment? Aimé le monde qu'il a... All right. Il y a une chose qui doit être liée ensemble. Aimer va avec donner. Si Dieu avait dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il les a laissés pourrir. Dieu a tellement aimé le monde qu'il n'a rien fait. Dieu a tellement aimé le monde qu'il les a laissés aller à eux-mêmes. Dieu a tellement aimé le monde. Non, il a fait quelque chose. Et quelle est la caractéristique qu'on met avec l'amour de Dieu? Donner. Et partout, fouillez, faites votre étude, allez dans votre Bible et cherchez partout où c'est écrit « aimer » par rapport à Dieu et tout de suite, il y a le mot « donner » qui est collé. Tout le temps. Dieu, quand il démontre son amour, il donne. Toujours, 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 toujours. C'est une caractéristique. En fait, c'est pour ça que souvent, on a l'impression que « oh, j'ai l'amour de Dieu ». Really? T'as vraiment l'amour de Dieu? C'est quoi les gestes qui vont avec? Quels sont les gestes qui me démontrent que tu as l'amour de Dieu? Je me souviens quand j'étais très jeune, on disait, oh, je t'aime avec l'amour de Jésus. Des fois, j'avais l'impression que c'est que moi, je t'aime pas, mais avec Jésus, je vais t'aimer. Non, mais ça. Ça sonnait comme ça. Je t'aime avec l'amour de Jésus, parce qu'avec mon amour, je suis pas capable d'y arriver. C'est vrai que ça sonnait comme ça. Je t'aime avec l'amour de Jésus. Ah ouais, tu es capable avec la tienne aussi? L'amour. Dieu a tellement aimé qu'il a donné. C'est sa caractéristique, c'est la générosité. Parce qu'au plus profond de lui, Dieu est généreux. Dieu est tellement généreux depuis le tout début, depuis le commencement. C'est ce qu'il est. D'où ça vient ce sentiment-là de vouloir être connu comme généreux? Ça vient de Dieu lui-même. Ça vient de Dieu, cette notion-là. Il nous a créés parce que tu as été créé à l'image de lui. Dans la Bible, on voit qu'il parle de plusieurs types de générosité. Vous savez, la générosité peut prendre plusieurs formes. Dans celle-ci, il donne son Fils unique. Sincèrement, là, puis je ne le dis pas de manière difficile, comment je pourrais dire. Je vais le dire, après ça, j'expliquerai. Je sais pas si je serais capable d'aimer comme ça. De donner un de mes enfants pour du monde qui veulent rien savoir de moi puis qui veulent tout défaire. Je sais pas comment... honnêtement, mon amour humain ferait comme... Attends une minute, là. Il y a des limites. Hein? Est-ce que je suis tout seul dans ce bateau-là, là? Aidez-moi. Aidez-moi. Non, mais... Puis je le dis en toute honnêteté, là. Je dis juste... Hey, Dieu, attends une minute, là. Sérieux? Tu as donné ton Fils unique pour du monde qui veut rien savoir de toi? Hey, garde ça pour lui. Garde ça. Non, non. Pas d'allure, ça. Et j'essaye de voir à quel point, tu sais, cette générosité-là que Dieu a, Dieu, c'est sans limite. Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse la compréhension humaine et logique de se dire, Dieu est amour. Ah ouais, Dieu a tellement aimé qu'il a donné la chose la plus précieuse pour toi, qui, en partant, voulait rien savoir d'eux. C'est ça. Et là, puis quand on le reçoit, on fait comme, oh, c'était quel grand amour, quelle grâce, quel amour merveilleux. Oui, oui, c'est vrai. Mais la Bible nous parle de plusieurs types de générosité. Et je vais en nommer quelques-uns. La première, on va regarder sur l'écran. La première type de générosité, c'est nos paroles. C'est-à-dire être généreux dans nos paroles. Et quand je dis ça, des paroles, de bonnes paroles. Non, mais je précise. Encouragement, support, soutien. Parce qu'on peut être généreux dans nos paroles, dans d'autres affaires, là. Ah, il te dit, OK, arrête de parler. Mais d'être généreux dans nos paroles envers les autres. Élève les autres par tes paroles. Encourage, supporte, prie. Utilise tes paroles de manière généreuse pour les gens, pour les encourager, pour les élever. Deuxième façon aussi qu'on peut voir, de type de générosité qu'on peut voir dans la Bible, c'est de prendre notre temps. Le temps. On peut donner du temps. Donner du temps à quelqu'un, donner du temps au voisin. Ensuite de ça, un autre qu'on peut voir, c'est notre implication. Implication au service, c'est-à-dire dans l'Église, l'implication de donner nos talents, nos ressources pour s'impliquer dans l'Église. Ensuite de ça, on peut voir aussi notre influence dans la Bible. C'est-à-dire, Jésus va dire, bien, vous êtes la lumière du monde, vous utilisez votre influence sur les gens. Fait qu'il y a plusieurs notions comme ça qu'on peut voir dans plusieurs passages où Jésus va dire, où la parole va dire, utilisez l'influence que vous avez sur le monde dans lequel vous vivez. Ayez une influence sur eux autres. Et finalement, il y a un autre qui est notre argent et nos possessions. Les quatre premiers, on fait comme à l'Église, bon, oui, dans la Bible, bon, oui. Ben, quand on arrive au dernier, on fait, hop, 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 hop. Ah, attends une minute. Là, par exemple, pourquoi avec le dernier, on a autant de difficultés que les autres? Pourquoi on a toute cette difficulté? Soyons honnêtes, là. Soyons honnêtes. On lit les autres, là, puis on fait comme, oui, ça, c'est bon, ça, c'est correct. Mais quand on arrive au dernier, on fait comme... Wow, wow, wow. Et plus on lit les enseignements de Jésus, il parle de ce dernier point-là plus que toutes les autres ensemble combinés. Et ça, c'est quelque chose qui vient nous déranger. À peu près la moitié des paraboles que Jésus fait font référence à ce sujet-là. Wow! C'est un des sujets que Jésus adresse beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ses enseignements. Maintenant, je vais demander à nos deux comparses de m'emmener la table ici en avant. On va faire quelque chose de spécial parce qu'on s'en va à ma deuxième question. Et ma deuxième question est celle-ci. Elle va être impliquée. Deuxième question. C'est ça. Pour pourquoi Jésus parle-t-il de générosité financière plus que toute autre forme? Pourquoi Jésus parle-t-il de générosité financière plus que toute autre? Pourquoi Jésus est si rabat-joie? Pourquoi il emmène autant de problèmes, autant de difficultés? Pourquoi Jésus nous fait ça? Pourquoi nous fait-il cette... Oups! Eh, ça s'en vient. Merci, les gars. Maintenant, pourquoi Jésus parle-t-il autant de ça? Pourquoi Jésus est-il fatiguant avec ça? Qu'est-ce que Jésus essaie de faire dans notre vie avec ça? Pourquoi il nous parle de ça? C'est bien énervant. Mais il y a un verset qui apporte la raison pourquoi Jésus fait ça. Jésus enseigne à ses disciples à ce moment-là, alors que ce qu'on va lire. Et Jésus leur parle à eux spécifiquement, là. Ce qui va être pour tout le monde par la suite, mais il va dire ceci dans Matthieu, le 6e chapitre, le verset 21 qui dit, « Car là, où est ton trésor? Là sera aussi ton cœur. » Attendez-moi un instant. Je le fais pour que les gens à la caméra puissent le voir. On va regarder quelque chose ensemble. Regardez bien ça. On va faire ça. Et on va faire ça. Okay, ici, toi. OK. Il n'y a plus besoin de vous autres. Quand Jésus nous parle de générosité par rapport à là, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je veux vous compreniez quelque chose. Il y a un ordre spécifique et c'est voulu. Il y a un ordre que Jésus l'a dit, c'est pas car là où est ton cœur, là sera ton trésor. C'est pas ça qu'il dit. C'est là où est ton trésor, là va être ton cœur. Le mot trésor en grec, c'est le mot thesauros, okay? Qui veut dire lieu dans lequel les biens et les choses précieuses sont conservés. Logique? À vous autres, je parle. OK. Et le mot qui est cœur, c'est le mot cardia. Cardia qui veut dire centre de toute la vie physique et spirituelle, l'intérieur, le milieu, le centre de quelque chose, même ce qui est inanimé. Le centre, le core, le cardia, là où sont toutes tes pensées, ce qui constitue qui tu es. Ce que Jésus est en train de dire, c'est quelque chose de super simple. OK? Et comme je vous dis, il faut pas manquer l'ordre dans lequel il les met. Parce que souvent, on le cite mal et on le cite du sens où, car là où est ton cœur, là sera ton trésor. Jésus ne dit pas ça. J'ai dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et c'est bien important, cet ordre-là, parce que vous allez voir tantôt que ça change tout. Ça change tout dans notre notion. Parce que si, tu sais, quand quelqu'un te dit, tu as mon cœur, je te donne mon cœur. Vous avez entendu ça? Ou vous avez peut-être déjà dit ça? Je te donne mon cœur. Mais que la personne n'a jamais dépensé une scène sur vous. Vous n'avez pas son cœur. Vous avez, je ne sais pas ce que vous avez, mais pas ça. Et là, on peut se dire, ouais, mais moi mon cœur, il n'est pas là. Moi, aujourd'hui, j'ai dépensé 4,25 pour aller m'acheter un café, Tim Hortons, Starbucks, McDo, peu importe lequel. Là. Mon cœur n'est pas avec Starbucks. Non, c'est vrai. Tu sais, le petit 4,25 que vous dépensez chez Starbucks, tu dis, ben là, il n'y a pas de problème, j'ai pas besoin d'y aller. Ah, c'est correct. Tu sais ce qui se passe? Si tu prenais le 4,25 puis tu dis, moi, j'aime tellement Starbucks, puis tu y allais tous les jours, ton 4,25, c'est 1550$ par année. C'est un voyage dans le sud, ça. Allez voir, vous l'aimez, Starbucks. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Comprenez bien ça, là, OK? Donc, si je prenais mon petit Starbucks de tantôt, mais je le grossissais, oh oui, là, tout à coup, il commence à avoir une corde qui s'attache à mon cœur. Mais quand on augmente le montant, pensez à votre maison, votre voiture, ou quelque chose de gros que vous avez acheté, quelque chose qui coûte cher, là. La Saint-Valentin vient de passer, là. Pensez à ça, là. Vous savez ce qui se passe? C'est que notre cœur est là. Notre argent tire notre cœur dans cette direction-là, tout le temps. Là où est ton trésor, là ton cœur va suivre, toujours. Pas l'inverse. C'est pas mon cœur qui s'en va puis qui amène la bourse. C'est pour ça que je dis, ce que Jésus dit, il dit, là où est ton trésor, là où tu places tes valeurs, ce qui est le plus important pour toi, ce qui a de la valeur incommensurable, là où tu places ça, ton cœur va le suivre. Toujours. Ton cœur va toujours aller dans cette direction-là. Peu importe. Oui, mais moi, c'est pas ça. Non, non, c'est ça qui va arriver. Alors, vous allez comprendre pourquoi Jésus m'en a parlé. Parce que ce que Jésus veut faire, c'est intervenir ici. Jésus, ce qu'il veut, c'est notre cœur. Est-ce que vous me suivez?
Amen.
Jésus n'a pas besoin d'argent. Il a tout. Il n'a pas besoin de ça. Ce qu'il a besoin, ce qu'il veut, c'est ça.
Amen.
Mais si c'est pris, Jésus dit, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. » Soit il va s'attacher à un ou à l'autre. Il va aimer un ou il va aimer l'autre. Il peut pas être à deux places. Il faut se détacher. Et pourquoi c'est si difficile? Parce qu'on est, notre cœur est lié à ça. Et c'est pour ça qu'on dit, oh, notre temps, ben ouais, on peut te donner, me donner 15 minutes, me donner une heure pour toi, ben ouais. Richesse et possession, argent, wow, wow, wow. Tu viens de toucher la corde sensible. Tu viens de toucher une corde fatigante. Et c'est pour ça que Jésus en parle autant, parce qu'il sait à quel point qu'on est pris avec ça. Beaucoup plus qu'on le pense. Et quand Jésus dit, je suis venu pour vous donner la liberté. La liberté, c'est d'être libre de ça. Et c'est là qu'on a de la misère. Parce que la vérité, c'est qu'on n'est pas libre de ça. On n'est pas libre de nos richesses, nos possessions et l'argent. C'est ce qui détermine où on place notre cœur. Et ce que Jésus veut, c'est notre cœur. Plus que toute autre chose. Au-dessus de tout ce qu'il désire, c'est notre cœur. Donc, là où va ton argent, là va ton cœur. Ton cœur va aller dans cette direction-là. Alors, quand on chante, « Oh Jésus, que je t'aime! » Jésus va dire, « Ouais, moi non, ouais. » C'est vrai? Montre-moi que tu es... Ton cœur m'appartient. Jésus, mon cœur t'appartient un peu. C'est plus ça. Mais pourtant, combien de fois j'ai vu des chrétiens avec des versets extraordinaires? Jésus est Seigneur de tout ou pas du tout? Vraiment? Réfléchis à ce que tu dis. Réfléchis à ce que tu chantes. Réfléchis à ce que tu cries à Dieu. Parce que la réalité, c'est que, et c'est pas une, c'est pour ça que je vous disais au début, c'est pas une condamnation. Ce que je veux, c'est que vous en ayez cette liberté-là. Il y a une liberté en Jésus. Mais cette liberté-là doit passer parce que Jésus dit, mais c'est parce que le problème, c'est où est-ce qu'il va ton cœur? Dans quelle direction il se dirige? Et il est dirigé par tes possessions, ton argent et tes richesses. Là, vous vous pensez, OK, à toutes ces choses-là. Je veux que vous compreniez que c'est pas une affaire de chrétien. C'est une affaire d'affaires. Ton cœur va toujours aller où tu mets ton argent. Tu sais, là, si, prenons un exemple. Je dis pas que tout le monde a ça, là. Mettons que vous avez dit, OK, moi, je vais investir à la bourse. Vous n'avez jamais suivi la bourse de votre vie. Je vous garantis que si vous investissez de l'argent, vous allez commencer à regarder la bourse. Vous allez suivre qu'est-ce qui se passe avec mon argent. Pas vrai? Qu'est-ce qui se passe avec mon, est rendu où mon argent? Qu'est-ce qui sort de là? Et là, tout à coup, avant, on n'avait pas vraiment d'intérêt à ça, mais là, tout à coup, ça devient, hop, intérêt, on regarde ça quasiment quotidiennement, savoir qu'est-ce qui se passe comme rendement. Parce que ton cœur est là. Il est attaché. C'est pour ça que ce que, là, je vous lance un cue, OK? Tout de suite, là. Allez-vous en pas si je vous dis ce coup, là. Mais c'est pour ça que Jésus dit, donne-moi ça. Il a pas besoin de votre argent, là. Il va pas pour aller au cinéma ou pour aller manger. Il a pas besoin de rien de ça, là. En fait, c'est pas ça qu'il veut. C'est vous couper de ça qu'il veut. Pour que vous, son cœur, votre cœur soit à lui. Complètement. Dieu veut notre cœur tout entier pour lui. Pas juste un bout. Pas juste une partie. Tout à lui. Ça, c'est difficile. Oh oui, Seigneur, j'abandonne tout. Entre tes mains, je te donne tout. Seigneur, prends mon cœur tout entier. Il est fait le tien. Prends tout ce que tu veux dans ma vie. On chante ça, là, mais quand on sort, là. On a repris des morceaux. C'est comme, Seigneur, donne-moi ça, là, je vois. C'était cool tantôt, là. Mais là, la vraie vie recommence, là. C'est vrai, j'en ris, mais c'est à peu près ça. Puis là, vous êtes un pasteur, là où est-ce qu'on dépense beaucoup, puis peut-être que vous allez y arriver, là. Puis vous dites, ah, pasteur, moi, je dépense pas beaucoup pour moi-même. Je dépense pas vraiment beaucoup pour moi-même. Juste pour ces merveilleux vampires. Mes enfants, je veux dire, mes enfants. Non, même si ça paraît drôle, c'est pas drôle. Parce que, en quelque part, même si c'est pas une question de dire, mais ma richesse, c'est mes enfants. Seigneur, si Dieu disait, tu me les donnes-tu? Wow, minute! Faudrait qu'il me pose sur le corps! Pour élire une histoire assez de résilience et assez vraiment extraordinaire, l'histoire d'un personnage qui s'appelle Job. Où Dieu a tout pris. Et d'où on chante ce merveilleux chant, le Seigneur a donné, le Seigneur a pris, béni soit l'homme. Wow, c'est beau dans toune. C'est merveilleux dans la chanson. Dans la vie, c'est une autre affaire. Le Seigneur a donné, le Seigneur a pris, béni soit le Seigneur. Je suis pas sûr qu'on chante ça, nous autres. Le Seigneur a pris ma job, a pris ma famille, mes enfants, il a pris toutes mes possessions, toutes mes terres, tout est parti. Seigneur, tu es bon. Merci d'avoir tout pris ça. Ouf. Ce que Jésus essaie d'enseigner à ses disciples, ce qu'il nous montre, c'est qu'on notre conception à nous, c'est qu'on est attaché à des choses ou à des gens, OK? Et malheureusement, ces choses-là prennent la place, trop de place dans notre cœur. Et notre cœur n'est plus à Dieu, mais à ces possessions-là, à ces trésors-là, à ces richesses-là. Et ce que Jésus essaie de dire à tout le monde, c'est le problème qu'il y a, c'est pas ce qu'il y a dans le sac, le problème. C'est qu'il y a une corde que tu me donnes pas pour être libre. Celui qui connaît la vérité sera complètement affranchi, complètement libre. Nous, on fait, ouais, c'est super le fun. Mais quand je dis, puis là, je veux dire une chose, je ne dis pas, je souligne ça très fort, que les voitures, c'est méchant, puis la bourse, c'est mauvais. Rien de ça. Je dis pas rien par rapport à ça. Tu sais, là, allez pas après l'église, à la maison, dire à vos enfants, le pasteur, parle aujourd'hui, on dépense plus une scène sur toi, c'est fini, là, mon enfant, là. Terminé. Le pasteur, là, dit, allez pas dire, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que j'ai dit. Puis vous compreniez comme faux, là. Non, prenez pas ça comme ça. Quand on sait, Jésus est simplement en train de dire que quand il y a une corde attachée entre notre richesse, notre trésor et notre cœur, savez-vous, il est en train de dire, c'est parce que je peux pas le prendre. Et quand tu saisis ça, tu saisis une perspective différente par rapport à tes richesses, par rapport à ton trésor, par rapport à ce que tu as acquis. Tu le vois différemment. Parce que Dieu n'a jamais hésité de nous donner ce qui était le plus précieux pour lui. Et nous, de dire, ouais, mais moi, je suis pas Dieu. Non, mais t'es fait à l'image de. Il y a la même aspiration, il y a le même désir en intérieur. Est-ce que Jésus a besoin de ton argent? Non. Jésus a tout créé. Jésus a tout, il veut ton cœur. Il n'aura jamais ton cœur tant que tu placeras pas ton trésor, ce qu'il y a dans la bourse entre ses mains. Jamais. Si, et là, je vais faire une illustration ou une analogie, puis toute illustration est boiteuse. On s'entend, là? Je veux juste pas que ma femme l'utilise contre moi, c'est pour ça. Je dis ça. Des fois, c'est pas drôle. Quand tu prêches, puis il y a des gens qui utilisent ton message contre toi, c'est pas le fun, ça. Mais, mettons que dans la vie, vous êtes fan de musique, de sport, de voiture, de moto, de peu importe. Et que ma femme veut mon cœur pour elle. Si ces choses-là prennent trop place, elle demanderait de les enlever ou de lui donner pour avoir la place. Parce qu'elle veut mon cœur. Elle veut me libérer de cette situation-là. Bien, il y en a ici par rapport à Dieu. C'est la même chose. Avec l'argent, les possessions. Sauf que c'est pire pour l'argent. C'est encore plus difficile. Dieu n'a pas besoin de notre argent, il veut notre cœur. Et où vous mettez votre argent, votre trésor, c'est ce que vous allez adorer, ce que vous allez mettre en premier dans votre vie. Et Jésus veut être le premier dans ma vie. Il veut mon cœur attaché au sien, qui s'incline vers lui. On devrait donc tous se poser cette dernière question-là. Pourquoi est-il si difficile d'être généreux? Je suis content que vous posiez la question aujourd'hui. Merci. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Pourquoi c'est si difficile de lâcher prise et de le mettre entre les mains de Dieu? Pourquoi c'est si compliqué? La Bible mentionne que tout appartient à Dieu. La Bible mentionne que Dieu est le propriétaire de tout. Là, on est du genre, lâche-moi une minute. J'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai un chèque de paye à mon nom. Je suis pas le deuxième, c'est à moi ça. C'est mon nom qui est dessus. C'est pas Dieu le propriétaire. Le roi David, dans l'Ancien Testament, un homme, et peut-être que vous ne savez pas, mais juste voir si vos connaissances. Est-ce que vous saviez quel était le surnom qu'on donnait à David? On l'appelait l'homme selon le cœur de Dieu. David, son surnom, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. David, qui est appelé l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu avait le cœur de David, et voici comment David parle à propos de Dieu. Et David est roi, là. David est tout, là. Dans 1 Chronique, chapitre 29, le verset 11-12, il dit, « Oui, dans le ciel et sur la terre, tout appartient. » Seigneur, car tu es le roi, le souverain maître de tous les êtres. La richesse et la gloire viennent de toi, qui domine sur toutes choses. Tu possèdes la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever et de fortifier qui tu veux. Ça appartient tout. David proclame que mes richesses, mon royaume, ma gloire, ma réputation, mes accomplissements, mes talents, ma vie, tout appartient, Seigneur. C'est toi, ça t'appartient à toi, tout ça. Et quand on se lève le matin, on pense peut-être pas comme ça. Sérieux, nous, on s'en va au travail, puis on fait les choses, puis on rapporte l'argent à la maison, donc je suis le pourvoyeur. C'est moi qui fais ça. Je travaille. C'est la soie de mon front. C'est moi qui fais ça. C'est mon nom sur le chèque de paye. C'est mon nom sur l'hypothèque. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Et regardez bien dans Deutéronome, chapitre 8, verset 17-18, dans la version sommaire qui dit, « Prends donc garde de ne pas te dire, c'est par mes propres forces et ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses. Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui te donne la force de parvenir à la prospérité. » On commence le matin, on dit, non, c'est moi, ça, là, ta minute, là. Non, non, Dieu t'en aurait dit, fais attention de pas te penser ça. Attention de pas partir dans cette direction-là. Je pensais ça, moi aussi. Mais ce que Dieu me dit, tu sais, Jean-Marie, le cerveau que je t'ai prêté, là, que tu utilises pour aller travailler tous les jours, là, c'est moi qui te l'a donné. La force que t'as pour bâtir cette prospérité-là, ou ton entreprise, ou ton, c'est moi qui t'ai donné ça. Souvent, on prend pour acquis les choses, nos talents, nos dons, nos richesses, notre argent. Dieu peut en donner plus ou l'enlever tout en un instant. C'est là qu'on réalise pourquoi être généreux est si difficile. Vous savez, moi, vous le dis, ça réside en un mot pourquoi c'est difficile d'être généreux. Juste un seul mot. Pourquoi? Pourquoi? Regardez bien. Être généreux est difficile à cause d'un seul mot. Moi. Il est là, le problème. Le problème, c'est moi. Et là, je le dis pas exclusivement, là, en passant, là, je sais pas. Éliminons-le, non, plus de problème. Prenez-le pour vous. Je veux juste clarifier les choses. Tout d'un coup, quelqu'un m'attend d'avoir. Non, non. Le premier mot, un des premiers mots qui sort de la bouche d'un enfant, c'est à moi. À moi. À moi. C'est à moi, ça. Un mot avec lequel nous avons de la difficulté. Et aucun endroit dans la Bible qui nous parle de quelque chose à moi que Dieu nous... Non, c'est, ça appartient à Dieu. C'est toujours à Dieu. C'est Dieu le propriétaire. c'est à Dieu seul qu'appartient toute chose. Je vais vous proposer un petit exercice aujourd'hui. Je vais vous proposer un petit exercice, puis je vais demander au placeur de passer un petit papier. On va terminer avec ça dans quelques instants, OK? Je vais faire un petit papier avec vous. Ils vont passer ça, et dans ce petit papier-là, vous l'amènerez avec vous, vous n'êtes pas obligé de le remplir tout de suite. Réfléchissez. En fait, c'est juste pour un exercice. Ça n'a rien de légal, OK? En passant, là, c'est écrit dessus, là. Je l'ai spécifié, aucune valeur légale, là. Juste au cas où. En fait, c'est un papier, une espèce de quittance dans un contexte de réclamation. C'est juste pour vous permettre de faire une prise de conscience. Et c'est entre vous et Dieu, ça. Et si vous êtes sérieux dans votre marche avec Dieu, prenez le temps de le remplir et placez-le dans votre Bible. Laissez ça dans votre Bible. Et dites, OK, Seigneur, tout ce que j'ai, là, aujourd'hui, en telle date, puis vous pouvez énumérer mon fonds de pension, mon REER, mon genre de collection, mon chalet, mes enfants, tout. Et de dire, Seigneur, t'en es le propriétaire. Ça t'appartient. Ce n'est plus à moi, c'est à toi. C'est pas simplement une affaire d'argent, c'est ça que je veux vous compreniez. C'est une affaire de cœur. Rien ne nous appartient. Et je veux que vous compreniez, même pas mes enfants. Ils ne m'appartiennent pas. Dieu me les prête pendant une période de temps pour m'en occuper. 18, 35 ans. Non, mais Dieu me les prête pour que je m'en occupe, pour que je les élève, puis je leur montre le chemin vers lui. C'est ça qu'il me demande de faire. Ils m'appartiennent pas, mes enfants. Je suis pas le propriétaire. C'est toujours ça que je dis quand on demande. À qui cet enfant? Je suis pas le propriétaire. Dieu nous prête pendant une période de temps pour s'en occuper. Je vous dis, ça change votre perspective de ce que vous avez. C'est comme, je prends ma douche, Seigneur, je m'envoie dans ta douche. C'est ton eau chaude. Je m'envoie dans ta cuisine, Seigneur, c'est ta bouffe. Il en manque d'ailleurs. Non. Hey. Mais non, mais, tu sais, c'est pas dans ta main. Seigneur, ça, c'est ta télévision, Seigneur. Puis quand je l'ouvre, puis je vois le hockey, je dis, tiens, Seigneur, ça, c'est ton sport, puis ton équipe préférée qui joue, Seigneur. Quand tu réalises que Dieu est le propriétaire de tout, tu comprends comment ça devient plus simple ou plus facile d'être généreux parce que ça lui appartient. Il y a un jour, je me souviens pas dans quel contexte, mais je pense que c'est un prédicateur ou dans un contexte de formation de finances. Il parlait de générosité en tout cas. Puis le gars a fait un exercice avec les gens que je ne ferai pas aujourd'hui pour le bien de tout le monde. Mais voici, il a dit, je vais vous faire expérimenter ce que c'est d'être généreux. Et vous allez le vivre. Et là, il a dit, sortez votre portefeuille. Prenez votre portefeuille, donnez-le à un voisin. Échangez avec les autres. Un coup, vous avez tout échangé. Décidez comment vous voulez être généreux, ce qu'il y a dedans. Donnez ce que vous voulez. Vous allez voir que c'est pas mal plus facile d'être généreux quand c'est pas votre portefeuille. C'est vrai! C'est facile de prendre... écoute, hey, il y a 100 piastres. On va donner 100 piastres. Wow, c'est merveilleux! Oui, c'est parce que ça t'appartient pas. C'est pour ça que t'es généreux. Mais en fait, c'est le même principe avec Dieu. Je savais que ça serait moins populaire, ce bout-là. Je savais. Je m'étais préparé. La générosité est plus facile à vivre ou à faire quand c'est pas la tienne, tes affaires. Mais c'est pareil avec Dieu. C'est pour ça qu'il parle de bénédiction quand on lui confie nos richesses et nos biens. Parce qu'il dit, tu me fais réellement confiance. Tu m'as tout laissé. Il y a quelques années, je trouvais ça difficile avec mes enfants, certains choix qu'ils prenaient, tu sais, ils grandissent, deviennent adultes. Et j'étais terrifié parce que je me disais, mais Seigneur, comment les amener pour qu'ils veulent te servir comme moi, j'ai envie de te servir. Et à un moment donné, le Seigneur m'a dit, et ça m'a frappé. Jean-Marie, est-ce que tu savais que je les aime encore plus que toi? Et là, je me suis dit, ouf. Non, mais ma réaction est naturelle. Je me suis dit, ben voyons. Et je réalisais tout à coup que Dieu avait effectivement encore plus d'amour pour mes enfants que moi je pouvais en avoir. Parce que lui a donné son fils pour mes enfants. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il a tout donné. Il les aime encore plus que je peux m'imaginer. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, OK, mon rôle, c'est de les mettre entre tes mains, pas entre les miennes. Qu'ils soient à toi, pas à moi. Vous savez, c'est difficile. Parce que c'est attaché. Ça fait mal de dire, je te le donne. Non, je te le donne pas. C'est à peu près ça, des fois. Ah oui, Seigneur, prends-le. Prends-le, Seigneur. Prends tout. Tiens, je te donne ce bout-là. Je me sens libéré. La vraie liberté, c'est d'être capable de ne plus être pris par ça, mais de laisser pleine confiance à Dieu. Que ce soit avec nos richesses, que ce soit avec ce qui est le plus important dans notre vie. Et la problématique, c'est qu'on est attaché. Pas attaché à Jésus, attaché à nos richesses. Car là où est ton trésor, là ton cœur va suivre. Et Jésus dit, fais de moi ton trésor. Quand il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste va suivre. Nous, on cherche tout le reste. On verra si ça suit après. On fait les choses à l'envers. Je vais inviter les musiciens, on va terminer dans quelques instants. Quand on comprend que nos possessions appartiennent à Dieu, on réalise que toute décision financière devient spirituelle. Elle a un impact spirituel dans notre vie. Toute décision qu'on prend. Si je veux... Si, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce que tu m'as confié? Et je vous pose la question. Je vous pose cette question-là aujourd'hui. De quoi ai-je besoin pour reconnaître la propriété de Dieu sur ma vie? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Et prenez le temps de réfléchir. Le message ne s'arrête pas là. Vous emmenez une partie du message avec vous. Et j'espère que vous prendrez le temps, même si vous ne le remplissez pas, c'est, je vais dormir. C'est pas entre moi et vous, là. Je veux vous compreniez. Moi, j'ai fait ça entre moi et Dieu. C'est vous qui faites ça. Vous ne le remplissez pas, c'est correct. Ça vous appartient. C'est votre décision à vous. Et moi, je ne suis pas là pour vous juger. Je suis pas là pour vous condamner. Je suis pas là pour amener aucune culpabilité. Je veux vous donner un espoir et une liberté de vous d'être plus esclave, mais d'être libre. Une liberté que Jésus nous donne. Mais on a besoin de le reconnaître comme Seigneur de notre vie et de toute notre vie. Au début, j'ai parlé de l'histoire du cercueil. Pose-toi la question, pour quelle raison va-t-on se souvenir de toi?
Merci d'avoir pris le temps de télécharger ce message. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre site Internet au www.eglisem.com. www.eglisem.com. Que Dieu vous guide et vous bénisse. Bonne semaine.